c'est Pierre Rabhi qui nous fait l'amitié de venir. Pierre, bonsoir et merci d'être avec nous. Nous poursuivons en fait une conversation que nous avons entamée depuis quelques années déjà. Nous tenons compagnie comme ça de temps en temps, mais je vous remercie particulièrement d'être venu nous voir à Paris parce que je sais que pour vous c'est une épreuve un peu difficile. Je me souviens avoir lu un jour que lorsque vous étiez dans le métro, vous aviez envie de bêler plus que de parler. Et puis on pourrait parler aussi de Paris comme de cet univers minéral qui est un de vos thèmes de réflexion sur lesquels nous reviendrons certainement. En fait, il y a tellement de thèmes sur lesquels on pourrait revenir. Déjà, avant même de commencer cette émission, nous avons parlé de radicalité, et puis nous avons parlé de monastère, et puis nous avons parlé de sauvegarde de la nature. Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer, Pierre? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous paraît urgent?
C'est là la difficulté, c'est que, en fait, tout paraît urgent. Mais ce qui me semble surtout urgent, c'est le fait de prendre conscience de notre inconscience. C'est-à-dire, en fait, nous sommes totalement dans une forme d'inconscience par rapport à l'évolution de l'histoire, de telle qu'elle est maintenant. Effectivement, toute la question de l'écologie qui me paraît être traitée beaucoup plus comme une question subsidiaire que comme quelque chose de fondamental. Je ne pense pas que l'écologie, il faut la traiter comme une question subsidiaire. C'est le fondement même de la vie. Et je m'aperçois que il n'y a pas une attention, l'attention qu'elle mérite aujourd'hui par rapport aux menaces et à l'avenir tel qu'il se présente aujourd'hui.
Oui. De fait, c'est très difficile d'en faire autre chose qu'un sujet parmi d'innombrables sujets. Comme si c'était un thème, l'écologie.
Oui, c'est pour ça que dans la gouvernance nationale ou internationale, on le considère effectivement comme un paramètre parmi d'autres. C'est-à-dire, et même c'est un paramètre qui est relativement considéré comme secondaire, alors qu'il est il concerne le fondement même de la pérennité, c'est-à-dire de la vie ou de la non-vie et de l'humanité.
De quelle manière? Peut-être pourriez-vous détailler un peu.
Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les détériorations... Je suis amené à circuler pas mal dans le monde, donc de voir diverses situations. Et partout où je vais, quand je me déplace, évidemment, c'est pas pour voyager, c'est aussi pour mener des programmes que je mène dans différents pays. Et je suis donc à même de mesurer les évolutions négatives partout. Qu'elle soit écologique, qu'elle soit humaine, qu'elle soit économique, qu'elle soit de toutes sortes, eh bien on voit aujourd'hui qu'il y a une double souffrance. Il y a une humanité souffrante qui n'en sort pas et qui génère de la souffrance. L'homme contre l'humain, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ça, avec le système international, il y a une sorte d'amplitude de la souffrance collective de l'humanité. On pourrait dire que la planète distille de plus en plus de souffrance. Et l'autre évolution négative concerne évidemment le support même de la vie, c'est-à-dire le fondement même de la vie, c'est-à-dire les éléments écologiques, où l'on voit le désert avancer, où l'on voit les pluies se raréfier dans certaines régions, comme je peux l'observer. C'est-à-dire que ce ne sont pas des idées générales, ce sont des constats que l'on peut faire. Et quand on les fait vraiment objectivement, ça a une toute autre force et ça provoque un séisme en nous-mêmes parce que c'est tellement tangible et c'est tellement évident qu'on ne peut pas considérer ça comme une théorie générale.
La semaine dernière, on parlait avec Gérard Dussert de l'ambroisie, cette plante qui envahit aujourd'hui bon nombre de territoires en France. Et il nous expliquait que l'ambroisie est originaire des déserts d'Amérique et qu'aujourd'hui, elle trouve des sols qui lui conviennent de nouveau en France.
Oui, c'est-à-dire avec le fait de que la planète soit devenue une sorte de village avec des continents auxquels on peut accéder en quelques heures, etc. On peut dire qu'il y a un resserrement de la planète, mais en même temps, ce qui me frappe beaucoup, c'est les déplacements. Les déplacements se déplacent énormément. Et ces déplacements, d'ailleurs, on croit que c'est l'humanité tout entière qui se déplace, mais en fait, je fais partie des 5 à 6% d'êtres humains qui prennent l'avion, qui circulent, etc. Et ces circulations et donc tous ces mouvements planétaires font qu'on en véhicule aussi bien des végétaux, des animaux, et qu'il y a un brassage général. Et je pense qu'on brasse aussi nos virus, nos microbes, tout ça se brasse de partout. Et donc, effectivement, quand un milieu n'est pas préparé ou que des biotopes ont été détériorés, évidemment, il y a cette espèce de prolifération qui profite de la moindre défaillance écologique pour s'installer. Et c'est ainsi que l'on voit des désastres dus à la prolifération de certaines espèces qui, en soi, ne sont pas dans leur milieu et dans l'équilibre, ne sont pas négatives, mais qui deviennent négatives parce qu'elles occupent de plus en plus de place et qu'elles anéantissent ou qu'elles inhibent toute autre forme de vie. C'est un peu l'histoire de la perche du Nil, etc. On peut dire qu'il y a des exemples comme ça, multiples, où l'être humain, en intervenant, dérègle et désorganise et provoque ces dysfonctionnements.
Alors Pierre Rabhi, quand vous parliez de l'inconscience, de notre inconscience, si ce n'est qu'on est là un certain nombre au Phytobar ce soir, et pas parmi les plus inconscients, et une des remarques qui reviennent maintenant très régulièrement, c'est « ça y est, la prise de conscience s'est faite ». Mais même ce terme de prise de conscience a tendance à vous agacer un peu.
Oui, parce que j'ai l'impression que c'est un système qu'on pourrait apparenter à l'électricité. Alors, on a une prise de conscience et on se met en prise de conscience, quoi. Voilà, ça me rappelle un peu ça, l'électricité, quoi. Et en fait, c'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'une élévation de la conscience.
Élévation, oui. Attention, en 2002, c'était insurrection.
Oui, moi j'ai proposé l'insurrection des consciences, mais l'un n'abolit pas l'autre. Je pense que par l'insurrection des consciences, heureusement que j'ai parlé d'insurrection des consciences et non pas d'insurrection tout court parce que j'étais en prison, mais l'insurrection des consciences peut aboutir à l'élévation de la conscience et donc à prendre en compte cette inconscience. C'est parce que nous sommes installé dans une norme molle comme ça qui fait que tout est normalisé et même ce qui est anormal est normalisé et on est très doué pour mettre en norme ce qui est anormal et on perçoit plus cette anomalie. C'est ça qui est dramatique. Donc je dirais l'élévation de la conscience, ça veut dire simplement que quand on à l'instar de quelqu'un qui grimpe une montagne, bien la vision s'élargit. C'est-à-dire que si vous êtes en bas fond, vous voyez très peu, puis si vous vous élevez, vous voyez de plus en plus large, et en voyant de plus en plus large, vous voyez les configurations plus intelligibles, c'est-à-dire elles sont, à ce moment-là, on commence à mieux comprendre et à mieux saisir les problématiques, et par cette élévation de la conscience. Mais la prise de conscience, j'ai du mal avec ça.
Mais alors évidemment, élévation des consciences, on pense aussi à de la spiritualité.
Je dirais que on a tendance à mettre la spiritualité à part. Moi, je dirais que le monde est spiritualité. C'est-à-dire le monde est esprit, en quelque sorte. C'est-à-dire, je suis totalement convaincu, sans faire de prosélytisme d'aucune sorte, qu'il y a une intelligence créatrice. Maintenant, chacun l'appelle comme il veut. Moi, en tant que jardinier, par exemple, je suis émerveillé de voir qu'une simple graine... Il y a un ami, il n'y a pas longtemps, qui est passé dans mon jardin. Il a vu une rave, comme c'est une grosse rave dans mon jardin. Je l'avais gardée, elle était à moitié desséchée. Elle portait des gousses pour... et puis, à l'intérieur, je l'ouvre, je lui montre, et je lui dis, tu vois, là-dedans, il y a une toute petite graine. Il faut presque une loupe pour la voir. Et je lui dis, mais tu vois, là-dedans, il y a un programme. Un programme à la fois complexe et à la fois subtil. C'est-à-dire qu'elle, cette petite graine de rien du tout, exprime, elle a son intelligence propre, et je pense qu'elle est, elle, connectée à une intelligence beaucoup plus large. Donc je dirais l'esprit est partout. Je pense que, en grande partie, je pense que les animistes, l'intuition animiste n'était pas si mauvaise que ça. Et que l'intuition animiste, quand l'animiste dit « dans l'arbre il y a de l'esprit, dans la roche il y a de l'esprit, dans la source il y a de l'esprit, etc. Dans chacun de nous il y a esprit », ce n'est pas pour autant tomber dans je ne sais quel fanatisme religieux. C'est simplement faire le constat qu'au-delà des mécanismes et des phénomènes élémentaires de la vie, il y a quelque chose qui anime en quelque sorte ces mécanismes. Vous pouvez expliquer par la voie phénoménologique comment une graine germe, Mais ce qui m'intéresse, c'est savoir qu'est-ce qui donne cette impulsion. Parce que si on reproduit la même graine artificiellement, elle ne germera pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que cette graine germe? Voilà. Et c'est là la grande interrogation, c'est ce qui fait que je suis un jardinier inconditionnel, non pas simplement pour produire des produits bio, je suis très content de produire des produits bio, mais aussi parce que je suis constamment face à ce mystère et à cet enchantement, je ne comprends pas. Mais ne comprenons pas, ben, ça me ramène à dire... comme le ravi provençal, vous savez, que c'est beau, puis voilà, je ne peux pas dire plus. Et ce que c'est beau, eh ben, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Il manque aujourd'hui à notre monde cet enchantement, voilà, il y a un désenchantement, ou il y a un enchantement, mais un enchantement négatif, c'est-à-dire un enchantement qui serait comme le maléfice, oui. Alors la technologie et tout ça enchante tout le monde est enchanté par cela, et il faut maintenant, pour réenchanter le monde, d'abord commencer par le désenchanter. C'est assez bizarre.
Si ce n'est qu'en vous écoutant, je m'émerveillais une fois de plus de cette capacité que vous avez à être exactement dans les deux, dans l'horreur et dans l'enchantement, dans l'urgence et dans le temps qu'on prend, de la contemplation. Et voilà, je voudrais peut-être que... vous réfléchissez avec moi là-dessus, parce que le sentiment d'urgence, c'est quelque chose qui s'est emparé de beaucoup de gens, et dont je pense parfois qu'il peut être dangereux, même s'il est nécessaire.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question, mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que l'être humain qui est normalement doté d'entendement, je réserve l'intelligence à autre chose, il est doué d'entendement, il a un libre arbitre, donc il a une intelligibilité des choses, et pourquoi cet être humain n'arrive pas à comprendre profondément, et non pas à comprendre en surface, mais comprendre en profondeur. Alors se pose la question du destin, hein, de l'humanité. On fait des guerres, on se détruit à moitié, et puis ensuite on signe des armistices, et puis on retourne aussitôt dans nos laboratoires pour faire des armes encore meilleures, encore plus destructrices, etc. Et on est comme pris dans dans cette fatalité, et en particulier tout ce questionnement sur l'horreur, hein, sur la violence. Dont on n'arrive pas à se défaire, à s'affranchir, et finalement, bon, bah, ça entérinerait presque une idée qui n'est pas la mienne, mais qui finalement, on finirait par se dire, eh bien, l'humanité ne peut pas changer parce qu'elle est sous l'emprise de forces maléfiques, forces du mal. Sinon, autrement, on se demande, mais comment se fait-il que la nature, si elle a généré l'être humain dans son processus et dans sa subtilité, elle a généré une conscience. Et cette conscience, c'est comme si elle a généré un être humain auquel elle donne tous les moyens pour à seule fin qu'il les retourne contre elle. C'est-à-dire que ça aboutit à une forme de négation, l'être humain, sur sa propre vocation. Est-ce qu'il est là pour détruire, ou est-ce qu'il est là pour aimer, bien sûr, c'est évident. Alors ça nous amène à sortir du quiproquo selon lequel nous serions intelligents. Non, je pense qu'il y a de l'intelligence, mais je pense qu'il y a, nous confondons beaucoup aptitude et intelligence. C'est-à-dire que nous avons d'énormes aptitudes, mais ces aptitudes ne sont pas éclairées par l'intelligence. Alors ça pose la question de l'intelligence.
Oui.
Voilà, et la question de l'intelligence, pour moi, je ne pense pas que nous, êtres humains, nous soyons la source de l'intelligence, mais nous sommes les révélateurs de l'intelligence universelle.
Comme des instruments de musique ?
Ou comme une lampe électrique. Ce n'est pas elle qui génère la lumière. Elle révèle le fait qu'ailleurs, il y a cette lumière. Et je dirais, un être, quand on rencontre des êtres intelligents, c'est pas une question de cerveau, c'est pas une question de performance cérébrale. C'est une question de lucidité. C'est-à-dire la lucidité, d'ailleurs lumière, lucidité, etc., c'est les mêmes étymologies. Et je pense qu'à force de prétendre que nous sommes la source de l'intelligence, on finit ne plus l'avoir. Et aujourd'hui, l'humanité, si des extraterrestres nous observent, ils diraient ils sont surdoués, mais ils sont crétins. Je vois pas comment on pourrait conclure autre chose compte tenu de ce qu'on a fait de cette merveilleuse planète, eh bien, il faut être vraiment crétin pour faire de ce paradis merveilleux, qui n'est pas sans, évidemment, qui n'est pas que de félicité, quelque chose d'aussi terrible. Voilà. Alors, c'est la grande question. Bon, l'intelligence, enfin, je pense que l'intelligence, elle est universelle, elle est dans l'univers, elle est dans la réalité cosmique, dans quelque chose qui a construit cette réalité, mais il faut se connecter et être éclairé par elle pour que nos actes soient éclairés.
C'est là que la prise de conscience pourrait nous servir à nous brancher sur...
Alors, je ne sais pas, c'est pas un branchement, en fait. C'est pas un branchement, c'est quelque chose qu'on laisse pénétrer.
C'est pour ça que je vous suggère.
On ne fait pas l'acte d'aller faire, mais on est dans une attitude réceptive. Et cette réceptivité va, elle, opérer. C'est pas... Voilà.
Alors j'ai une autre question, parce qu'il y a la réceptivité, mais il y a aussi la question de la transmission.
Oui.
La question de la transmission de ce que vous ressentez, vous Pierre Rabhi, de ce que vous avez construit de votre vie, et vous avez toujours eu à cœur, enfin depuis très longtemps, de transmettre ça. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où les transmissions sont devenues tellement pléthoriques et en même temps... brève, courte, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui transmettre ? Et qu'est-ce qu'on peut transmettre ?
C'est-à-dire que la transmission, elle ne se fait qu'à partir du moment où on a acquis soi-même quelque chose à transmettre. Dans mon itinéraire, ben, j'ai commis un livre qui s'appelle « Du Sahara aux Cévennes ». À l'époque, pour pas qu'on confonde avec un rallye Paris-Dakar à l'envers, j'avais ajouté la reconquête du songe dans le sens où je pense qu'il y a dans le temps, la notion du temps, quelque chose. Le temps, on est en fait prisonnier du temps. Et quand vous ajoutez un temps time is money, alors là c'est l'incarcération totale. Voilà. Et donc, durant toute une partie de mon existence et de mon itinéraire d'insurgé, parce que c'est basé quand même sur une insurrection. L'insurrection par rapport à quoi ? Par rapport à une idéologie qui, en fait, c'est une idéologie de l'argent, c'est tout. C'est rien d'autre. L'éducation, tout est subordonné, disons, à la puissance de l'argent. Pourquoi les gens courent après l'argent, l'accumulation, etc. Ça donne du pouvoir, ça permet d'acheter des tas de choses, ça permet de se sécuriser, ça permet... Sauf qu'on oublie que l'argent achète tout, sauf la joie. C'est-à-dire la joie de vivre ne s'achète pas. Et heureusement, parce que ce serait injuste si on pouvait aller au bazar du coin acheter un morceau de joie. Ben non, la joie est gratuite. Et donc, elle est gratuite, elle peut être donnée à quelqu'un qui n'a pas d'argent et elle peut ne pas exister chez celui qui a les moyens, etc. Donc, pendant toute une période, ça a été basé sur... déjà récuser un système qui met le profit sans limite comme fondamental et comme base du paradigme. Et à partir de là, on passe dans l'aliénation humaine, sur un système qui prétend qu'il est libérateur. Et quand je travaillais à l'usine et que j'essayais de comprendre un petit peu dans quoi nous étions impliqués, ce qui apparaissait, c'est évidemment la notion de profit illimité, la notion de productivité, alors on produisait, produire pour produire, le travail déifié comme étant ce qu'on doit faire, mais si ce travail encore aboutissait à générer de l'équité, d'accord, mais il ne générait pas de l'équité, il générait au contraire des disparités. Et puis quand on essayait de, avec cette proclamation selon laquelle la modernité, la technologie, la science allait libérer l'être humain, moi ce que je constatais c'était plutôt une incarcération totale. De la maternelle à l'université on est enfermé, ensuite on va dans les casernes, moins maintenant peut-être, et ce qui me frappe c'est quand vous demandez aux gens où est-ce que vous travaillez, tout le monde travaille dans des boîtes. Je travaille dans une petite boîte, je travaille dans une grande boîte, voilà. Si vous demandez aux jeunes où est-ce que vous êtes allé vous amuser, je suis allé m'amuser en boîte. Comment vous y êtes allé? Dans ma caisse. Et puis vous avez la boîte à vieux en attendant la dernière boîte. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce que nous propose la modernité comme le charme de la vie. Et ensuite, vous y rajoutez, bien sûr, ce hors-sol appliqué à l'humain, c'est-à-dire cet univers minéral dans lequel la nature n'est représentée que par le chat, le chien ou le pot de fleurs, et que pendant ce temps-là, les étoiles brillent dans le ciel, les sources coulent, les arbres fleurissent, etc. Mais il n'y a personne pour admirer, pour prendre conscience de cette réalité naturelle. Donc du coup, on a créé un monde à part. On a créé un monde parallèle, et ce monde parallèle, malheureusement, il est de culture fortement urbaine, et cette culture urbaine donne une culture confinée, c'est-à-dire où la réalité n'apparaît plus qu'à travers le prisme à la dimension de cette culture confinée. Alors que la nature offre évidemment toute l'immensité, la complexité, la beauté, elle est extrêmement large, et donc ce confinement fait qu'il y a une pensée qui n'est pas en rapport avec le monde d'aujourd'hui. Alors la transmission, c'est quoi? C'est à partir d'un certain moment, vous avez acquis une expérience, vous avez tenté de mettre en cohérence votre existence avec votre pensée, c'est ce que nous avons tenté de faire en nous installant en Ardèche depuis déjà plus de 45 ans. Et puis ensuite, vous appliquez, vous vous dites, tiens, cette expérience acquise sur toute cette petite terre d'Ardèche, aride, vous pouvez la féconder, vous pouvez l'améliorer, etc. Donc, on est capable d'améliorer. On est capable de prendre une nature difficile et la transformer. Ensuite, vous vous dites, je ne vais pas garder ça égoïstement pour moi. Donc, d'autres vont venir vous voir. Ils vont se dire, tiens, comment vous faites? Vous commencez à transmettre. Et cette transmission, elle s'est faite au nord d'abord, elle s'est faite au sud, et maintenant, elle s'élargit et elle aboutit aujourd'hui à me faire dire que ce que j'appelle moi l'agroécologie, c'est mon dada, si on peut dire, c'est ma façon d'être présent dans cette société et d'essayer de contribuer à l'évolution positive de la société. L'agroécologie devient une approche qui intègre non seulement des aspects théoriques, scientifiques, etc., mais des aspects humains, des aspects sociaux, des aspects économiques, des aspects philosophiques, des aspects spirituels, appelons ça comment. Et c'est une globalité, et c'est cette transmission que j'essaye de faire aujourd'hui. Mais ce qui me rassure, c'est pas de dire j'ai quelque chose à transmettre, c'est que les autres confirment que ce que j'essaye de transmettre, ils y adhèrent aussi. C'est-à-dire, en fait, je ne prétends pas être le maître qui transmettrait à des disciples ou quoi que ce soit. J'ai simplement une expérience vécue qui nous traverse. Et quand elle nous traverse, eh bien, les autres peuvent la recevoir et en faire leur propre bien. Voilà, je suis là-dedans.
Mais vous allez me trouver d'humeur chagrine, mais je vois deux difficultés dans ce que vous décrivez. Je vous écoutais décrire les sources qui coulent, les étoiles qui brillent, si ce n'est qu'on le sait, ce monde hors sol qui a été construit par notre société, finalement il déteint un petit peu sur cette nature et il la rend moins riante, les étoiles brillent moins, les sources coulent moins, la nature est moins belle et moins fertile. Donc ça, c'est déjà une difficulté par rapport au moment où vous avez commencé l'agroécologie il y a 45 ans. On le sait, la situation s'est dégradée terriblement. Et puis, peut-être deuxième difficulté, vous disiez, et c'est vrai, vous êtes comme ça, Pierre Rabhi, vous n'êtes pas un gourou. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a envie d'être un maître, qui transmet à des disciples béats, si ce n'est que c'est extraordinaire la capacité des gens à faire de vous, et pas seulement de vous, mais entre autres de vous, un gourou. Donc comment est-ce que vous...
En tout cas, c'est pas faute de mettre bien en évidence qu'il y a Pierre Rabhi dans ses limites d'être humain, 50 kilos tout mouillé, donc je ne peux pas mieux faire. Je parle de décroissance, mais je l'applique déjà physiologiquement, elle est appliquée, et d'ailleurs ce qui me chagrine un peu, parce que finalement dans les avions, je paye le même prix que... Des fois je trouve quelqu'un est double de ma personne et il paye le même tarif que moi, je trouve ça totalement injuste. Donc je n'ai pas du tout... Il y a Pierre Rabhi dans ses limites, dans ce qu'il est en tant qu'être humain, avec ses contradictions, avec ses... Et je tiens à rester cet être humain simple. Mais il y a aussi la personne qui a expérimenté des choses, c'est-à-dire qui a reçu quelque chose à travers son expérience qui est tellement plus précieux qu'elle, enfin J'aime beaucoup la formule de Mozart qui dit « Moi, je peux être vulgaire, mais jamais ma musique. » Et ça, je trouve, ça me convient tout à fait. C'est-à-dire, l'être humain, dans ses limites, même dans ses contradictions, même dans ses incohérences, mais à la fois, l'être humain, c'est ce que j'ai tenté, la cohérence. Donc voilà, après, je comprends parfaitement et je me prête, si vous voulez, à certaines situations où, comme moi-même, étant adolescent, j'avais besoin de gens qui m'éclairent un peu parce que j'étais un peu dans le brouillard. À travers mes lectures, à travers des rencontres, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé. Et l'entraide, il ne faut pas l'abolir, l'entraide. Qu'on aide les gens à avancer, oui. Mais à la condition que ça soit libérateur, c'est-à-dire qu'après ils puissent marcher par eux-mêmes et qu'ils ne soient pas attachés à une personne comme une personne salvatrice. Qu'il y a un temps, je le comprends, j'ai été moi-même jeune et j'ai été moi-même dans des difficultés, et j'étais bien content que quelqu'un m'aide à passer le ruisseau, si on peut dire. Et après, c'est la libération, bien sûr. Maintenant, si les gens ont cette posture, moi, je n'y suis pour rien. Quoi.
Voilà. Je sais que vous n'y êtes pour rien. Voilà. Et sur l'état de cette nature.
Oui, c'est sûr qu'il y a la laideur s'installe partout. On voit bien la périphérie des villes, ces ups, ces zaps, ces machins. Alors, on comprend que les gens taguent. C'est l'installation de la... De la laideur. Et malheureusement, cette laideur qui est en nous, nous l'infligeons à toute la beauté qui est autour de nous. Et comme si je ne sais pas quoi, comme si cette nature belle nous gênait quelque part et qu'il faut qu'on la mette aux normes de notre propre perception. Et c'est vrai que la nature est très malmenée. Évidemment, il y a les laideurs apparentes et puis il y a les laideurs inapparentes, c'est-à-dire celles qui sont sournoises dans les pollutions, dans l'empoisonnement des eaux, l'empoisonnement des sources, l'empoisonnement, tout ça me fait extrêmement mal. Moi, je me rappelle... Il y a seulement 40-50 ans, quand on rencontrait une source en montagne, on buvait, mais en toute confiance. C'est-à-dire, on ne se posait même pas la question de savoir, la source coulait, elle brillait, elle chantait, on buvait et on se délectait de cette eau. Aujourd'hui, il y a une méfiance permanente. Est-ce que c'est pollué? Est-ce que c'est pas pollué?
On ne se pose même pas la question, on ne la boit pas.
On ne la boit pas, parce que le risque est là. J'ai vu des rivières avec des écrevisses, j'allais pêcher des écrevisses. Enfin, je n'étais pas un pêcheur très performant. Enfin, je ramenais quand même quelques sujets que j'avais pu capturer difficilement. Eh bien, des rivières où j'allais en Ardèche, il n'y a pas très longtemps, il n'y a plus une seule écrevisse. Donc on peut parfaitement mesurer l'évolution, en quelque sorte, de la dégradation et de la laideur que l'être humain est en train d'instaurer sur la planète. Alors il y a toutes ces laideurs, mais il y a aussi les laideurs que l'on voit sur nos écrans. Il y a les laideurs multiples qui révèlent finalement les laideurs intérieures aussi, beaucoup. Donc c'est vraiment dommage parce qu'en fait, nous sommes faits pour la beauté, nous ne sommes pas faits pour la laideur.
Il y a aussi toutes les laideurs que vous avez vues dans vos multiples voyages, les déserts en Afrique, les pollutions terribles dans les pays de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous prenez à bras-le-corps cette situation pour faire ce que vous appelez votre part du colibri? Racontez l'histoire du colibri, elle est jolie.
Oui, absolument. Le colibri, c'est une histoire amérindienne qui... Vous savez, les Amérindiens ont une espèce de dévotion pour le colibri. Vous savez, c'est ce petit oiseau qu'on confond presque parfois avec un insecte et qui a cette légèreté, cette beauté, etc. Et la légende dit qu'il y a eu un incendie de forêt et que, tous les animaux étaient atterrés comme ça, regarder brûler la forêt. Et le colibri, lui, il s'active. Il va prendre une goutte d'eau dans la rivière, il vient la jeter sur le feu. Il le prend dans son petit bec, il vient la jeter sur le feu et il s'active. Et je crois que c'est le tatou qui, agacé, lui dit « Mais écoute, colibri, c'est quand même pas, tu prétends pas qu'avec ça tu vas éteindre le feu. » Il dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Et j'ai trouvé ça très beau parce que finalement c'est en fait ça. Chacun de nous dans son univers, dans son microcosme, peut faire quelque chose, bien sûr. Et alors... Le problème se pose à nous, c'est ce que j'éprouve au quotidien. Disons, parfois on est tenté par à quoi bon. On se dit mais à quoi bon, puisque il suffit d'ouvrir la radio pour se dire bon bah ça y est, il y a qu'à retourner se coucher. Toutes les nouvelles qui arrivent de tous les côtés, les massacres, les trucs, les machins. Donc on est dans cette espèce de monde où les dégradations, où il y a le meilleur et le pire, c'est-à-dire que l'humanité a généré du meilleur et du pire. Donc on ne peut pas nier qu'il y a de la semence d'humanisme, de la semence de beauté dans notre histoire. Et d'ailleurs cet humanisme et cette beauté qui surgit quelquefois dans les grandes tragédies. Dans les grandes tragédies, on voit surgir des âmes et des consciences éblouissantes parce qu'elles ont transcendé, même dans les grandes concentrations, dans des tas de choses, on voit des lumières comme ça extraordinaires. Donc l'humanité recèle le meilleur pour construire un monde différent et un monde humanisé. Mais on a l'impression que c'est le pire qui submerge le meilleur. Voilà. Alors nous, on est ratatinés. Alors on se dit, bon, moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue pour essayer de faire contribuer à une évolution qui me paraît de plus en plus improbable, une évolution positive du monde qui me paraît de plus en plus improbable, ou est-ce que je continue envers et contre tout? C'est pas continuer envers et contre tout, parce que j'ai totalement intégré deux hypothèses. La première est négative, c'est-à-dire que de transgression en transgression, l'humanité se fait disparaître. Donc elle s'expulsera elle-même de ce phénomène de la vie. L'autre hypothèse positive à laquelle je veux travailler, c'est un sursaut de conscience. Un sursaut de conscience tout d'un coup, ou peut-être au bord du gouffre, plutôt que de se dire nous sommes au bord du gouffre, du précipice et nous avons fait un pas en avant, vous savez si cette expression, c'est de dire ben, nous sommes au bord du gouffre et puis maintenant il est évident que nous n'avons pas d'autre choix que de reconstruire le monde autrement. Et tout le monde est invité à reconstruire ce monde autrement, avec les talents de chacun, avec les moyens, et ça serait un chantier extraordinaire. Il suffirait par exemple de transférer une partie de ce qui est consacré aux armements, par exemple, de destruction. Je ne comprends pas que l'humanité, il paraît qu'on a de quoi détruire 30 planètes comme la nôtre. Il suffirait d'en avoir de quoi détruire une ou deux, puis on économise le reste. Je veux dire, ça serait formidable d'économiser le reste et dire, bon, on va reboiser, on va dépolluer, on va faire des choses, enfin, intelligentes. Eh bien, non. Alors, ça nous ramène finalement à dire, qu'est-ce que je fais, moi? Eh bien, moi, aujourd'hui, ce qui me maintient actif, et même hyperactif, même peut-être devrais-je consulter un psychanalyste pour savoir si je suis encore normal dans cette espèce de presque de névrose de vouloir faire les choses, c'est simplement de se dire moi j'ai envie d'être cohérent, c'est tout.
Une fois vous avez appelé ça la névrose écologique.
Oui, ben, quelquefois je le ressens comme ça parce que je vois des gens qui partent, bon là, il n'y a pas longtemps j'avais l'image d'un pépère tranquille qui allait acheter son pain dans la boulangerie, ensuite il allait revoir les copains au bistrot, il était à la retraite, comme moi, et puis avec sa petite cigarette sur le côté, sa casquette, et pour lui, il semblait qu'il n'y avait pas de problème dans le monde, il allait jouer son tiercé, revoir les copains, etc., et je l'enviais presque, je lui dis, mais pourquoi est-ce que nous avons ce souci du monde qui nous prend aux tripes, et qu'on est incapable d'être autrement que dans le souci du monde? Alors ça veut dire que probablement nous sommes interpellés au plus profond de notre être, parce que tout ce que nous faisons à la nature, moi je le ressens profondément comme moi, élément de la nature. Et quand on abat inutilement un arbre, je me sens blessé. Je sens ces blessures. Et donc je me dis, je ne veux pas renoncer. Et ne voulant pas renoncer, donc ça veut dire qu'il faut s'engager de plus en plus. Et dans le processus qui m'entraîne de plus en plus loin, mais avec une satisfaction quand même, c'est que ça s'élargit, ça s'implante, il y a quelque chose il y a un ensemencement qui se fait à travers les consciences, et puis au bout du compte, on se dit, nous faisons le possible, et Dieu, s'il existe, fera l'impossible, parce qu'on est vraiment à ce seuil où on est dans une forme d'impuissance, mais à la fois, chaque fois que quelqu'un agit positivement, eh bien, il a bravé et surmonté la fatalité. En tout cas, il a surmonté la fatalité pour le monde, mais pour lui-même aussi. Il l'a surmonté réellement, réellement. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ça nous donne toute raison de nous mobiliser, avec une contrepartie, comme je disais tout à l'heure. Je me dis, mais quelle contrepartie je trouve à ces engagements? Ben, c'est ma propre cohérence, parce que je ne pourrais pas, je serais asphyxié si je n'avais pas un minimum de cohérence qui me maintienne en vie.
On va passer la parole à la salle. J'imagine que vous devez être nombreux à vouloir poser des questions ou échanger des remarques. Alors, en fait, il faut lever la main, même si on est à la radio, parce que si vous ne levez pas la main, on ne pourra pas vous passer le micro. Et pendant que vous réfléchissez à ce que vous voudriez dire... Oui. Alors, allez-y, ça va marcher.
Bonsoir. Voilà. Je pense que vous, M. Perabi n'a pas complètement répondu à votre question concernant l'urgence. Malgré vous, vous vous présentez comme un sage, mais tout le monde pense, tout le monde ressent en partie d'ici, en tout cas, qu'il y a une urgence extrême. Donc concrètement, par exemple par rapport à l'EPR, aux OGM, dont le débat n'a toujours pas lieu, et pourtant les OGM sont de plus en plus partout, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que colibri?
Ben justement, c'est peut-être de ne pas acheter ce qui est OGM, à la condition évidemment que ça soit bien notifié sur les... Moi, je trouve, il paraît qu'il y a 80% de personnes qui, en France en tout cas, qui sont contre les OGM. Enfin, c'est ce que j'ai lu. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer une nation dans laquelle 80% de la population refuse quelque chose et n'aboutit pas à obtenir des États que ce refus soit validé? C'est ce qui m'étonne le plus. Alors, ça veut dire, probablement, alors, il y a presque une remise en cause de la démocratie, dans le sens où la démocratie signifie quand même le gouvernement par le peuple, enfin c'est ce qu'on m'a appris, et puis que des questions comme celle-là soient éludées ou soient maintenues dans un état flou sans que des décisions fermes soient prises. Alors je pense que chacun de nous, évidemment, il n'y a pas que les quelques personnes qui se mobilisent pour aller arracher pour attirer l'attention dans le sens, et qui produisent une pédagogie tout de même parce qu'ils font éclater la problématique. Mais cette problématique, elle ne concerne pas que ceux qui vont au front, elle concerne chacun de nous. Or, est-ce que chacun de nous, dans nos microcosmes, est-ce que nous sommes attentifs à ces problèmes-là? Ou est-ce qu'on laisse simplement quelques-uns aller au front et nous, avec une protestation plus ou moins molle, mal définie, mal déterminée? Je pense qu'on est dans un pays quand même démocratique, et dans ce pays démocratique, malheureusement, on gâche la démocratie par le fait que nous sommes de plus en plus de citoyens délégatifs, mais pas assez de citoyens actifs.
Mais peut-être justement, pendant que d'innombrables mains se lèvent pour avoir le micro, justement, moi j'allais vous demander, vous avez dit tout à l'heure, Pierre Rabhi, je m'engage de plus en plus. Comment? Quelle forme est-ce que ça prend?
L'engagement est bon, la prolongation de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a on parle beaucoup de dérèglement climatique, etc., mais on ne voit pas arriver une sorte de tsunami alimentaire. Aujourd'hui, l'alimentation sur la planète est quand même un énorme problème, très très grand problème. Il suffit de visiter évidemment les pays du Sud pour voir que l'insuffisance alimentaire fait des ravages. Et quand même, on pourrait dire que c'est l'une des plus grosses défaillances du genre humain, c'est qu'en dépit des ressources suffisantes sur la planète, en dépit de nos capacités et de nos moyens, nous laissons quand même une grande partie de nos semblables mourir de faim. Ça, c'est inadmissible et je crois que moralement inadmissible.
Non seulement on les laisse, mais je pense qu'on est en partie responsable.
Alors, en partie, il y a une stratégie de la faim. Parce que j'ai beaucoup travaillé en Afrique et il y a toujours une ambiguïté. Si vous demandez aux gens, est-ce que l'Afrique c'est pauvre, ils vous diront oui. Alors que l'Afrique est immensément riche. Elle représente 30 400 et quelques mille kilomètres carrés, équivalent presque 10 fois la superficie de l'Inde, avec seulement 800 millions d'individus. 60% de la population en moins de 30 ans. Donc il y a trois facteurs positifs qui devrait faire du continent africain non seulement un continent qui se nourrit copieusement et largement, mais qui devrait être exportateur. Simplement, l'Éthiopie cultivée correctement pourrait nourrir l'ensemble des gens. Alors on se dit, mais pourquoi il y a cette défaillance? Donc c'est vrai qu'il y a une organisation de la faim par les mécanismes même du profit. Ça, je pourrais en parler longuement parce que il faudrait je ne sais combien d'émissions. Donc c'est vrai que aujourd'hui pour moi, continuer, c'est contribuer au maximum à travers cette option agroécologique dont on a démontré l'efficacité, de l'élargir au plus grand nombre. Voilà. C'est un peu ça l'engagement actuel. Comment faire que la nourriture, les gens soient nourris? Parce qu'évidemment, au sud, vous avez une insuffisance alimentaire, on pourrait dire une insécurité alimentaire, et au nord, vous avez de plus en plus une insalubrité alimentaire. Et je dis parfois, bientôt, quand on s'invitera, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra souhaiter bonne chance. Parce que ce qu'on ingurgite aujourd'hui, la nourriture qui est censée entretenir la vie, va bientôt provoquer la mort. Donc c'est très grave et c'est là mon lieu d'implication aujourd'hui. Et concret, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de théorie générale, il s'agit vraiment de prendre les choses à bras le corps, des sols, comment gérer les sols, comment les fertiliser, comment apprendre aux gens à irriguer, comment apprendre à gérer l'eau pluviale, comment lutter contre l'érosion, comment sensibiliser et informer et former, etc. Nous avons plusieurs structures témoins qui sont consacrés et dédiés entièrement à cette problématique.
Et en fait, ces structures, effectivement, se multiplient. Mais il y a une autre question, donc on vous écoute.
Oui, bonsoir, monsieur Rabhi. Moi qui ne connais pas très bien dans le détail vos activités, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous développer un petit peu l'objet de votre transmission, et notamment dans ces implications sociales que vous avez mentionnées?
Oui, voilà, il y a une première expérience. Qui est fondamental. Le monde occidental, disons l'Europe, l'Occident, ont, suite à la technologie, suite, disons, à la révolution industrielle, instauré une agriculture de type industriel, s'inspirant du monde industriel, c'est-à-dire la productivité, l'efficacité, les engrais chimiques, les pesticides, les semences sélectionnées, la mécanisation, etc., etc. Et ça a donc développé une agriculture qui est la moins rentable de toute l'histoire de l'humanité, la moins efficace, puisqu'il faut 10 calories d'énergie pour faire une seule calorie alimentaire. Vous voyez? Donc c'est très dispendieux. Alors cette agriculture, on a voulu l'imposer, la généraliser. Et si l'Occident a pu mettre en place cette agriculture, c'est parce qu'il disposait, à travers la colonisation, de matières premières pas chères, de pétrole, etc. Avant le grand choc pétrolier, le pétrole était accessible, donc on pouvait en fait avoir cette orgie productiviste avec des machines, des tracteurs, etc. Seulement, quand on veut généraliser cela au pays du Sud, eh bien, on constate que ces gens-là, j'ai connu le Burkina Faso en 1981, pour être un peu bref, et pays grand comme la moitié de la France, à l'époque, 7 à 8 millions d'habitants, avec un 96% de paysans, un budget national qui était équivalent au budget de l'Opéra de Paris. Oui. Donc des gens classés parmi les plus pauvres de la planète en termes financiers. Parce que là aussi, il y aurait tout à discuter sur ce qu'on appelle l'économie, qui n'en est pas une. Il y a beaucoup d'experts en économie, mais je prétends qu'on ne parle pas d'économie. Parce que si on avait appliqué l'économie sur cette planète, personne ne manquerait des ressources. L'économie, par définition, elle est faite pour répartir les ressources et pour les faire que au plus grand nombre. Donc, ce qu'on appelle économie, c'est surtout de l'avidité humaine déguisée en économie, c'est-à-dire le toujours plus, jamais satisfait, etc. Alors, quand vous avez affaire à des paysans à qui on a dit, maintenant, tu ne peux plus seulement travailler ta terre pour toi-même, mais tu dois travailler pour exporter, à ce moment-là, le paysan dit, mais écoutez, mais de quelle façon? Tu vas utiliser des engrais, des pesticides, des semences sélectionnées. Et on va imposer donc un mode de production qui est basé sur la valeur pétrole, puisqu'il faut à peu près 2,5 à 3 tonnes de pétrole pour faire une tonne d'engrais. Le pétrole étant indexé sur le dollar, et bien évidemment, un paysan dont les ressources sont pratiquement nulles, à savoir 250 francs par an, il ne peut pas accéder à ça. il est confronté donc à un problème où on le pousse à produire des cultures exportables, le coton, le cacao, le café, enfin la liste serait longue de tout ce que les paysans et les paysannes du pays du tiers-monde ont généré pour notre prospérité. Et seulement à ce moment-là, on se heurte au terme des échanges, c'est-à-dire que la marchandise vendue rentre dans la compétition internationale. Par contre, les intrants qui sont indispensables, eux, indexés sur le dollar, donc eux restent relativement stables. Et vous avez quoi? Ben, vous avez un appauvrissement du paysan. C'est-à-dire qu'il, alors qu'il arrivait à peu près à se nourrir, il n'arrive même plus à se nourrir. Et si vous ajoutez à cela la sécheresse des années 70 qui a affecté le Sahel en particulier, eh bien vous avez deux facteurs négatifs, à la fois un milieu naturel dégradé, à la fois un mode de production difficile. Donc j'ai introduit l'agroécologie en 81, ce qui a amené à dire nous pouvons utiliser des techniques qui se passent entièrement des intrants chimiques et autres qui sont coûteux, et en même temps ces techniques incluent des actions, ce que j'ai cité tout à l'heure, lutte contre l'érosion, le reboisement, la gestion de l'eau pluviale, la régénération des sols par la matière organique qui est omniprésente, et le paysan n'a rien à acheter. Aujourd'hui, il y a 100 000 paysans au Burkina Faso qui pratiquent au moins la fertilisation organique. Ce qui fait que nous avons quand même eu une victoire importante, et aujourd'hui, ça demande de l'extension. Alors, je reviens à tout à l'heure à ce pourquoi je suis impliqué, c'est parce qu'il faut donner extension à ces méthodes-là, parce qu'elles ont été mises à l'épreuve des faits et elles répondent véritablement aux besoins actuels des paysans qui sont demandeurs et de plus en plus demandeurs.
Dans ces implications sociales, disiez-vous?
Alors, oui. Disons que l'implication sociale est en fait implicite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens dans les systèmes, certains systèmes, traditionnels, la société est organisée en corps social. En corps social. Si vous demandez, vous allez dans un village africain du Sahel, et que vous demandez à tous les gens d'apporter leurs économies, d'un village de 200 à 300 personnes, vous allez peut-être collecter 1000 francs français. Voilà, c'est tout. Et vous vous dites, avec 1000 francs français, 300 personnes ne peuvent pas vivre. Ils vivent pourquoi? Parce que justement, ils ont une économie qui est une économie vernaculaire, qui est fondée énormément sur le lien social, sur l'entraide. On prend en charge ces vieillards, ces orphelins, on s'entraide, etc. Donc c'est un système qui est organisé socialement sur la pérennité et sur la transmission justement des savoirs et sur l'assistance mutuelle, à la fois dans le temps et l'espace, la retransmission de cette assistance. Alors l'aspect social, on n'a pas, malheureusement, il est en train de se dégrader parce que quand on vient vers la modernité, la modernité c'est quoi? C'est des individus qui ont tenu le qui ont vécu grâce à un salaire. On a institutionnalisé la solidarité à travers, évidemment, on verse ses cotisations et on est après assuré d'une assurance sociale, etc. Et puis, sauf qu'aujourd'hui, les individus n'existent que s'ils ont des ressources. Quelqu'un qui n'a plus de salaire, plus de revenus, est oblitéré socialement. Et là, il y a peut-être une inspiration à avoir par rapport à cette organisation sociale du Sud. Et c'est la raison pour laquelle ça m'avait amené il y a une dizaine d'années à proposer ce qu'on appelle les oasis en tout lieu, c'est-à-dire comment faire que des gens puissent reconstituer ce lien social qui est indispensable, fondé sur la solidarité, la mutualisation des savoirs, des savoir-faire et la réciprocité. Donc d'avoir des espaces individuels et privés, mais avoir aussi un espace collectif dans lequel il y a un intérêt commun et cette solidarité sociale. Si on n'arrive pas à cela, ça va faire quelque chose de terrible, parce que les individus seront de plus en plus exclus et seuls et dans l'impossibilité de trouver une structure dans laquelle ils puissent s'insérer, puisque au contraire ils sont désinsérés, si on peut dire. Donc l'aspect social de l'agroécologie est important pour nous.
Oui. Vous voyez, Pierre Rabhi, je songeais un peu en vous écoutant, je songeais à, à ces petits villages perdus au fin fond des Cévennes ou ailleurs, où il m'est arrivé de vous retrouver devant des salles combles, alors même que les grands médias n'avaient jamais annoncé que vous passeriez là. Toujours les gens sont au rendez-vous, même dans les endroits les plus reculés. Et peut-être encore plus étonnant, les gens sont au rendez-vous ici, à Paris, où vous créez une sorte d'oasis. Aussi oasis en tout lieu, c'est aussi oasis dans cette ville qui est la nôtre. Vous avez beaucoup parlé des paysans, vous avez beaucoup parlé de l'agriculture. Et je me demandais peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tous ces gens de la ville. Est-ce qu'il y a encore...
Disons que je ne fais pas le clivage ville-campagne. Si je suis parti sur le principe de l'appel à l'insurrection des consciences, c'est bien parce que cette interpellation des consciences va bien au-delà de tous les clivages et les appartenances. C'est-à-dire que les individus, qu'ils soient en ville, qu'ils soient à la campagne, etc., c'est comment fédérer ces consciences pour qu'ensuite on puisse agir et construire ensemble.
On va poursuivre la conversation, mais pour l'instant, on va se dire au revoir sur Terre à Terre, en tout cas, puisque l'émission pour ce matin est terminée. Vous pourrez la télécharger pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous pourrez également consulter les émissions des deux mois précédents, en fait, non, l'émission de la semaine dernière, puisqu'avant c'était les vacances. Et puis, vous pourrez regarder notre revue de web hebdomadaire. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Et puis notre adresse qui est toujours la même. Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Voilà, Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurent Chenepin, Anne Gouzon. Au Phytobar aujourd'hui, la prise de son, le mixage était assuré par Jean-Pierre Zins et Étienne Roy. Et la réalisation par Olivier Bétard. Bonne semaine à tous. Thank you.